franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Nous poursuivons notre route dans la Drôme. Ce département est même présent au Festival de Cannes en ce moment par l'entremise de la commission du film Drôme Mardèche. Ça s'appelle Cineda. Cineda.com pour l'adresse afin de vendre ses décors naturels aux producteurs réalisateurs présents sur la croisette. C'est aujourd'hui que débute le 15e festival latino de Saillant dans la Drôme, toujours à ne pas confondre avec Saillant dans le Gers qu'on a traversé il y a pas longtemps. Saillant dans le Gers, c'est un T. Saillant dans la Drôme, c'est un S à la fin. On peut peut-être dire Saillant si on veut, mais normalement on dit Saillant avec ses 1200 habitants, qui est le parfait exemple de démocratie participative réussie. Lors des dernières municipales, les habitants avaient créé une liste collégiale qui a été élue au premier tour, et depuis les décisions se prennent dans le même esprit de démocratie ouverte. Le festival n'est qu'un moment dans la vie de cette commune vraiment citoyenne. Cours de tango, dîner-concert, projection documentaire, bal, cours de salsa, concert de San Trinidad, sextet cubain, c'est jusqu'à dimanche, donc à Saillant, et vous allez trouver un lien avec le festival. Invité de ce jour, Guillaume Morin, fondateur de la société Selvao Conception. On reste un peu latino. Guillaume, fort de son expérience sur la canapée amazonienne, conçoit des hébergements insolites, écologiques et légers, inspirés par la nature. Et puis, en second lieu, Caroline Ligui, cohabitante et membre de l'Omaison à Die, soit un quartier conçu en habitat participatif écologique.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Guillaume Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créateur de la société Selvao Conception. Vous êtes dans la lignée des inventeurs de nouveaux hébergements suspendus ou terrestres. D'abord, un petit mot, vous revendiquez le Made in France dans vos productions?
Tout à fait, c'est l'une des bases de notre société. On construit principalement dans notre département, dans la Drôme, et un peu en Isère et en Ardèche.
Oui. C'est-à-dire que tous les ateliers, tous les partenaires sont assez proches de vous.
Voilà, exactement.
Oui. Le principe de Selvao, alors inspiré de Selva, de la forêt en espagnol, c'est lié à une pratique que vous avez eue d'explorer la canopée entre 2006 et 2009. Autrement dit, vous êtes monté à la cime des arbres et pour créer des campements mobiles.
Tout à fait. J'ai encadré, donc en tant que grimpeur encadrant dans les arbres, j'ai encadré plusieurs scientifiques et photographes dans les forêts tropicales du Costa Rica et du Pérou. Et donc, à ces moments-là, j'ai installé des structures éphémères pour leur confort, pour qu'ils puissent faire leurs observations et leurs photos.
Ouais. Et vous aviez dessiné vous-même ces installations ?
C'était des installations à l'époque très sommaires. Hein. On parle plutôt de fils étendus, de petites tentes suspendues. Et c'est qu'après, en rentrant entre les deux pays, où j'ai commencé à dessiner une des premières structures qu'on a toujours en production, qui s'appelle la Pandola.
Oui.
Et c'est que par la suite, en rentrant après 2009, en 2010, que j'ai commencé à dessiner des structures qui soient plus adaptées à au milieu tempéré, on va dire.
Ouais.
C'est encore plus confortable.
Et vous vous inspirez toujours de la nature ?
Dans la mesure du possible, je vais piocher des idées que la nature offre à nos yeux, quoi.
Alors, vous avez cité la Pandola, donc inspirée d'un nid d'oiseau, un petit peu.
Ouais, voilà, ça vient du nom de l'oiseau qui s'appelle Oro Pandola. C'est la famille des tisserands, cet oiseau, qui tisse des nids pendus aux branches, ce qui leur permet d'être assez loin des prédateurs. Et c'est, elles ont la forme un peu d'une goutte suspendue, quoi.
Ouais. Il y a la goutte d'eau, alors comme son nom l'indique, une forme de goutte d'eau. Il y a la campalune, alors là inspirée du nénuphar, qui est peut-être plus ludique dans le dessin et dans le design. Et puis vous avez inventé aussi un mix de yourte et de cabane qui s'appelle la cabanourte. En fait, on peut faire du petit séjour en extérieur, comme passer une nuit dans la goutte d'eau par exemple, Or, c'est plus tout à fait du camping, c'est pas du tout de la cabane accrochée dans les arbres.
Ça dépend de quel produit. Ouais, on part du sol avec la cabane ourte pour finir dans les arbres avec la pandola ou la goutte ou la campalune sont possibles d'être suspendus aussi.
Oui. Vous utilisez quel matériau ?
On travaille le bois, principalement, l'acier et après la toile.
Et quel type de toile alors, vous utilisez ? Parce qu'il faut quand même des produits résistants, hermétiques.
Donc ça, on travaille avec des toiles qui sont utilisées en architecture, qui sont fabriquées dans la région grenobloise.
Mmh. Comment on se fait une place dans un marché tel que celui-ci ?
Eh ben, on innove. On est obligé de créer un peu des structures qui ne ressemblent pas forcément à celles des voisins et qui ont des attraits assez importants, quoi.
Et vous faites du sur-mesure ?
Principalement, les nouvelles créations, en fait, elles viennent de la demande de clients au départ.
Ouais. Et aujourd'hui, vous diffusez bien au-delà de votre département de la Drôme.
Tout à fait. Là, sur ce printemps, on a installé un peu de partout en France, en Picardie, en Bretagne. Et puis, début d'été, je pars au Canada pour installer une structure.
Ouais. Quand, après vos expéditions en forêt d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, vous êtes revenu en France, vous avez vécu, me dit-on, avec votre campagne pendant 2 ans dans un lieu de vie suspendu.
Oui, tout à fait, ouais. On habitait à l'époque dans une maison en colocation, ouais. Et on a décidé de faire notre chambre dans un bouquet de chênes, et du coup, on voulait habiter vraiment au milieu de la forêt.
Oui. Et alors, vous installez effectivement les créations dans un mouvement du glamping, glamour et camping, tendance apparue en Angleterre et qui s'installe de plus en plus en France avec donc ce que vous réalisez, made in France, vraiment très local, avec ces créations de Selvao, conception à Piégros, la Clastre, pour le siège de votre société. Merci Guillaume.
Merci à vous.
C'est pour lutter contre la désertification des campagnes que Saint-Nazaire, le désert, a joué la carte de l'accueil du numérique Saint-Nazaire. Le désert, petite commune du Diois, 180 habitants, un peu plus l'été quand même, a déjoué le pronostic d'effondrement démographique qu'elle portait dans son nom. Karen, correspondante des carnets, fait partie du groupe fondateur de l'association Désert Numérique. Autre clin d'œil à une réalité rurale bien connue. Les 4 membres du collectif vivaient ou séjournent longuement dans cette petite commune. Ils ont fondé un festival des arts numériques et ouvert des ateliers proposés aux scolaires du village et de 2 autres communes rurales. Ces ateliers, depuis 3 ans, proposent aux enfants des séquences de création numérique d'une durée d'une semaine. À chaque fois, 2 artistes reconnus, expérimentés, professionnels, viennent encadrer les enfants et expérimentent avec eux différentes pratiques de vidéo, de création sonore, de création interactive, et le résultat du travail est ensuite proposé au public et présenté au public. Depuis la création de l'association, la vie des communes s'est peu à peu transformée par l'ouverture de pays, c'est-à-dire d'espaces publics internet. Il y en a 40 dans la Drôme et il y en a un évidemment à Saint-Nazaire-le-Désert avec l'association du désert numérique qui a mis en place à cet endroit une médiathèque dite subjective de plusieurs centaines d'ouvrages sur l'art numérique contemporain. www.désertnumérique.net pour l'adresse. Et puis on prolonge encore le plaisir d'annoncer l'ouverture récente d'un nouveau lieu culturel, salon de thé brocante, dans cette belle Drôme provençale, cette fois à Molens-sur-Ouvèze. Il s'appelle Un tigre dans le grenier. Son site internet précise que c'est un lieu d'échange pour faciliter l'intégration culturelle de tous et promouvoir l'économie locale. Chaque samedi, il y a un événement, concert, expo, conférence. Et chaque jeudi, le local est mis gratuitement à disposition de la population. Pour le nom, Ariel, membre de l'association, ne nous a pas donné d'explication. Donc je vous laisse chercher. Si vous avez une idée, vous pouvez nous écrire. Donc c'est untigredanslegrenier.fr pour l'adresse. Caroline Ligoui, bonjour.
Bonjour.
Caroline, cohabitante, membre du projet d'habitat participatif L'Omaison, a dit dans la Drôme. Alors, Lomaison, si vous cherchez sur Internet, ça s'écrit L-O-M-E-Z-O-N, pour faire un petit peu la différence. C'était voulu, je l'imagine. Entrer dans un projet tel que celui-ci, ça impliquait quoi de votre côté, Caroline?
Alors, ben, ça impliquait de se projeter sur de la mutualisation, de l'entraide. Donc, c'était vraiment dans les cordes de ce qu'on avait imaginé avec mon mari et ma petite famille.
Oui.
Mais aussi certaines craintes, bien sûr, hein, de savoir si on se rejoindrait les uns les autres sur nos envies, nos convictions aussi sur la création de ce projet.
Oui. C'est-à-dire que déjà, rencontrer les futurs habitants, enfin les futures familles, pour les premières qui se décident à partager cet espace, il y a une période de rencontres, de réflexions, d'échanges de points de vue, et savoir si vous êtes tous compatibles en fait à cet exercice.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au démarrage, on a souvent des grandes idées, des grands mots comme protection de l'environnement, comme effectivement entraide. Et au fur et à mesure, en fait, ces choix deviennent plus concrets quand on commence à passer à des phases plus techniques ou dans le concret. Et donc nos choix s'affinent et parfois effectivement bah ils se rejoignent bien et puis parfois au contraire on a des divergences de points de vue ou d'envie et du coup on choisit autre chose.
Et surtout qu'au départ vous pensiez découper en parcelles le terrain.
Alors ça avait été, disons, l'idée des premiers couples qui ont imaginé quelque chose sur ce terrain, hein, qui est donc à 10 minutes de Die. Au départ, il y avait effectivement l'idée de dire on achète un terrain ensemble, parce qu'effectivement le prix, l'accès au foncier était pas évident, et on fait chacun effectivement notre propre maison. Et finalement, la réflexion, l'idée de voir quelque chose de plus proche de l'habitat participatif a émergé, en se disant ben, on pourrait mutualiser des espaces, on pourrait s'entraider pour aménager nos intérieurs, on pourrait par exemple avoir un seul et même local vélo, des chambres d'amis en commun, et du coup réfléchir aussi à des surfaces dans nos logements qui soient raisonnables et qui intègrent cette possibilité de mutualiser des chambres à l'extérieur de notre propre surface.
Oui. Alors 3 familles au départ, 5 quelques mois plus tard, aujourd'hui 7, l'acquisition d'un terrain d'environ 1 hectare avec la construction des maisons en version bois-paille. Et là, quand on participe à ce projet-là, on fait de la construction directement aussi.
Alors, nous avions 2 choses. Nous avions à la fois dans le groupe des personnes qui avaient des compétences en gestion de chantier, aussi en mise en œuvre. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a intégré ces compétences au projet. Et bien sûr, on a été accompagné par un architecte qui, lui, nous a dressé des plans et nous a permis, voilà, d'avoir une réalisation intégrée au paysage qui correspondait aussi à un souci de minimiser des charges derrière aussi, donc des maisons bioclimatiques avec de l'isolation en paille et une structure en bois. Voilà, quelque chose qui avait à la fois du sens pour chacun et pour le collectif.
Vous concernant concrètement, Caroline, vous et votre famille, vous disposez de quelle superficie et à quel coût vous l'avez obtenue?
Alors nous, on est à environ 100 mètres carrés, donc c'est un duplex, rez-de-chaussée, étage. Bon, on a 2 enfants, donc on est 4 personnes dans le foyer. On a un coût, alors si on raisonne uniquement sur la partie habitable, on est à 1 800 € du mètre carré. Et ça, c'est sans compter les finitions qu'on a choisi, nous, d'intégrer dans notre intérieur.
Et en sachant que dans cette construction bois-paille, on fait une énorme économie d'énergie aussi.
Tout à fait. Pour vous donner une petite idée, nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dans les lieux. On a une économie de 30% au niveau de l'eau, parce qu'en plus, on avait fait un choix de toilette sèche. En termes de chauffage, comme c'est optimisé, on a juste un petit poêle d'appoint. Et là, on a passé l'hiver avec 1,5 stère. Donc, c'est vraiment minime. Ça donne un peu les idées sur les économies qu'on peut faire en termes d'énergie et de charges mensuelles, qui représentent souvent quelque chose d'assez important dans les foyers.
Et pour vous, c'est une nouvelle vie?
Oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Par exemple, pour les enfants, c'est vrai que c'est un contexte qui est formidable. Il y a une convivialité qui se crée et une entraide spontanée qui, pour le quotidien, est vraiment agréable pour tout le monde.
Et le site, c'est lomaison.wixsite.com. Vous allez le retrouver à nos pages d'émission. Merci pour votre témoignage, Caroline. Et puis, on vous libère parce que j'ai entendu le fiston vous appeler.
Je vous remercie beaucoup.
Merci. Bonne journée, Caroline.
Au revoir. Bonne journée.
Demain, dans la Drôme, pour la dernière de la semaine, le réseau Repas et ses éditions Repas, ses réseaux d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Et puis, on parlera d'un programme intéressant de vidéo mise en ligne qui donne la parole aux habitants du pays sous le titre de Vox Populi dans le territoire de Royan. Toujours dans la Drôme.